Il est 9h05, vous écoutez RCF tout de suite. Grand angle consacré ce matin à l'association Cœur de Femmes. Frédéric Mounier reçoit France Gall.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Grand Angle. Cette semaine, nous abordons un sujet grave, mais nous allons l'aborder avec une espérance infinie. Il y a dans notre pays des milliers, des dizaines de milliers de femmes qui vivent en situation de grande exclusion. Elles sont battues, droguées, violées, alcooliques, sans domicile fixe, sans âge, et donc souvent sans avenir. Une femme, Mona Chassériau, a décidé de se révolter, de lutter contre cette apparente facilité. Elle a créé en 1992 une association bien nommée Cœur de Femmes pour leur venir en aide. Et cette année, l'hebdomadaire Pèlerin a décidé, avec l'opération Cœur d'Or, de soutenir Cœur de Femmes. Avec nous donc dans le studio de Grand Angle aujourd'hui, Mona Chassériau. Bonjour Mona.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous allez nous en dire plus sur Cœur de Femmes, mais aussi sur votre histoire personnelle, il faut bien le dire, assez unique. À vos côtés, Paula Boyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de l'hebdomadaire Pèlerin et vous nous expliquerez pourquoi et comment vous avez décidé de soutenir Cœur de Femmes. Et puis enfin, une invitée exceptionnelle pour ce Grand Angle, France Gall. Bonjour France Gall.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ici parce que vous avez répondu personnellement à l'appel de Mona Chassériau et vous nous direz donc pourquoi et comment vous soutenez Cœur de Femmes. Voilà, donc tout savoir sur ces femmes en situation de grande difficulté, ces femmes qui s'en sortent avec Cœur de Femmes, et surtout comment vous qui nous écoutez sur RCF, vous allez pouvoir les aider, c'est tout de suite et c'est dans Grand Angle.
Grand Angle, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Grand Angle aujourd'hui avec l'hebdomadaire Pèlerin. Alors tout d'abord deux mots de Paula Boyer, rédactrice en chef de Pèlerin. Pourquoi Pèlerin cette année a-t-il choisi l'association Cœur de Femmes dans le cadre de l'opération Cœur d'Or ?
Pèlerin est un hebdomadaire d'actualité, catholique, familial, soucieux du lien entre les générations, soucieux de resserrer les liens entre les personnes dans une société où l'individualisme prime et où de ce fait-là le lien social se désagrège. Hebdomadaire catholique, Pèlerin s'efforce de regarder l'actualité avec une espérance infinie, donc de montrer que même lorsque les choses sont tristes, difficiles, il y a toujours de l'espoir. Et Cœur de Femmes, justement, montre que face à une situation aussi difficile que ces milliers de femmes qui sont battues, violées, qui sont dans la rue, eh bien il est possible de faire quelque chose. Si on leur tend la main, on peut les aider à reprendre confiance, à se relever, à se reconstruire. C'est là un message d'espoir, d'espérance formidable. On a eu envie de le faire partager à nos lecteurs. Et dans le cadre de cette opération Cœur d'Or que nous leur proposons chaque année à l'automne, parce que nos lecteurs sont généreux, ils ont envie de tendre la main à ceux qui sont en difficulté, eh bien cette année, nous leur avons dit « Aider Cœur de Femmes ».
Alors, Cœur de Femmes, c'est d'abord et avant tout, au moins au début, l'histoire, l'expérience d'une femme, Mona Chassériau, qui est avec nous aujourd'hui. Mona, au début des années 90, il s'est passé quelque chose de pas commun dans votre vie.
Oui, c'est en 89. C'est vrai que là, ma vie a changé totalement, puisque dans ma première partie de vie, j'étais plutôt scientifique, rationnelle, vraiment avec un esprit très cartésien. J'ai senti de nouvelles émotions, une sensibilité différente que je ne connaissais pas avant. Et puis, effectivement, j'avais tellement de signes que je me suis dit, je vais aller faire un point sur ma vie en Provence avec une amie qui louait une petite maison, donc pour essayer de comprendre de ce que je vivais. Et c'est là que j'ai eu l'ouverture, je dirais, la grande ouverture. Et si vous voulez, c'est difficilement explicable parce que je pense que
la grande ouverture.
Oui.
Une sorte d'appel.
Pour la Boyer.
Oui, c'est ça. C'est une sorte d'appel, mais je dirais que quand on lit tous les mystiques, on se retrouve tous à vivre la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'impression que le voile se déchire, et là, on voit. On comprend et on a la certitude, quoi.
Alors, il faut juste préciser, avant que ce voile-là ne se déchire, vous meniez une vie semblable à beaucoup d'autres. Vous étiez mariée, vous aviez deux grandes filles, vous aviez une situation de qualité dans l'industrie pharmaceutique.
Absolument.
Cette vie-là aurait pu continuer longtemps ou peut-être pas ?
Si,
il vous manquait quelque chose ?
Non, pas du tout. En fait, je ne me rendais pas compte que je cherchais. Je m'en suis rendu compte, sans doute, quand ma vie a changé. Je me suis dit, j'ai compris que j'étais toujours en recherche, mais je ne savais pas de quoi, parce que je ne cherchais rien du tout.
C'est ça.
Mais c'est devenu évident que j'étais toujours en quête de quelque chose.
Donc, dans la première... l'évidence de quoi pour vous ? C'était l'évidence que vous aviez besoin de vous donner, l'évidence de vous aviez besoin de changer le monde, de ça s'articulait comment en vous ?
Je pense que je suis née avec une grâce peut-être. J'ai beaucoup d'intuition.
Oui.
Et déjà quand j'étais en pharmacie, je pouvais dire la maladie des gens. Je ressentais les choses. Et déjà dans mon mariage. J'ai épousé cet homme parce que il était cassé en mille morceaux et que c'est plus comme un accompagnement que j'ai vécu mon mariage, parce que quand je suis allée me marier, j'avais l'impression d'aller à l'échafaud. C'était vraiment très curieux parce que c'est très très curieux parce que je peux pas expliquer, mais je savais qu'il fallait que je passe par ça. C'est comme
Ça a duré près de 20 ans.
Et ça a duré plus de 20 ans.
D'accord.
Mais ça a été l'école cœur de forme. Je pense que tout la marche avec mon mari, si vous voulez, de ce combat, ces pierres qui se frottent l'une à l'autre pour aller toujours plus loin. Parce que c'est vrai que j'ai le sens du sacré. Pour moi, quand je fais quelque chose, c'est toujours sur deux plans. Et donc, je pouvais pas le laisser. C'est vrai que sa douleur, tout explosait, quoi. Hein. C'est là où j'ai compris que le sens des mots était différent pour chacun. Donc, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il se mettait dans cette colère, mais c'était sa souffrance à lui, quoi.
Donc, c'était une vie malgré tout compliquée, une vie lourde à porter. C'est ces deux cailloux
plutôt.
Qui se frottent.
Hein. Oui, oui.
Et puis, donc, un jour, une nuit.
Voilà.
Une sorte d'éclair, de dévoilement.
Oui, 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 c'est carrément. Ça m'a projeté de mon lit. Hein, c'était pas
à ce point-là.
Ah oui, c'était pas. Oui, puis en plus j'ai eu toute l'ouverture de l'Orient. En plus, j'ai reçu toute la métaphysique. Donc
à ce moment-là, vous nous disiez, vous êtes allé voir une amie, c'est ça, en Provence.
Oui, c'était chez elle.
Ça s'est passé chez elle.
Oui, parce que c'était justement, j'étais un petit peu pour faire le point sur ma vie dans le silence.
D'accord.
Donc c'est dans ce silence qu'il s'est passé cette chose-là. Et après, j'ai compris que je ne pouvais plus soigner la finalité de la maladie avec des médicaments comme je le faisais, mais qu'il fallait aller à la source de la souffrance ou de la maladie. Et pour moi, c'était ça, ma véritable place, quoi.
Donc là, à ce stade de votre vie, vous avez vendu votre maison.
Oui.
Et vous avez décidé de rompre avec votre vie.
J'ai quitté ma famille d'abord.
Oui.
Enfin, ma fille aînée était déjà partie de la maison parce qu'elle était en cinéma. Enfin, la deuxième a compris. Elle avait 16 ans, mais bon, je crois qu'elle a une grande âme, donc elle a vraiment très bien compris ce qui m'arrivait. Et puis, mon mari...
Est-ce qu'on peut vous demander, du côté de votre mari, comment ça s'est passé ?
C'est-à-dire que lui, il a compris aussi. Enfin,
d'accord.
C'est-à-dire ça... Bon, c'était comme si c'était une fin. On finissait quelque chose. Mais il m'a aidé au début à aller chercher les femmes dans la rue, quand même. Il a été proche au départ. Hein.
Alors, comment s'est déroulé pour vous ce passage vers la rue ?
Alors, si vous voulez, ça a été j'ai rencontré l'abbé Pierre. Et
donc une rencontre peu commune, on peut imaginer.
Peu commune, surtout que c'était justement, j'ai participé à la naissance des scouts musulmans avec les scouts catholiques, où ils ont fait un partenariat, parce que pour moi, on se retrouvera pas dans les religions, on est toujours dans la dispute parce qu'on pense toujours que chacun a la vérité, mais par contre, on se retrouve à la source qui est l'action aussi. Dans l'action, tous les gens se retrouvent et là c'est commun. Donc c'est pour ça que pour moi, je me suis dit au lieu d'être délinquant, c'est mieux qu'il soit scout, parce que pour moi ça avait été une grande école de la vie. Et j'ai demandé à l'abbé Pierre d'être parrain, et c'est dans notre rencontre qui m'a transformé le regard. Et moi j'y ai
vu... De quelle façon ?
C'est-à-dire que tout d'un coup, moi j'ai eu l'impression qu'avant je regardais en strate. Hein, je regardais au-dessus plutôt.
Oui, et là, de façon superficielle.
Voilà. Et tout d'un coup, je voyais vraiment les gens qui étaient en bas. À l'époque, il y a 16 ans, on parlait des exclus en général, mais on ne parlait pas des femmes en particulier. Et comme moi, je suis née dans une famille matriarcale de femmes, on était 9 femmes des Bretonnes, c'est pas rien.
Du côté de la Baule, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, c'est tellement le pilier d'une société, c'est tellement elle qui est au centre et qui donne la vie et qui transmet les valeurs profondes, que quand mon regard s'est ouvert sur les jeunes complètement cassés en mille morceaux, je me suis dit, mais quels enfants vont-elles mettre au monde ? Et ça a été la question qui m'a fait démarrer.
France Gall, je vous ai vu réagir pendant que Mona nous racontait cette vie quand même très très singulière, pas vraiment commune. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette vie-là ?
Ben d'abord, je la découvre véritablement, oui. Cette vie, parce qu'elle n'a pas eu le temps de me la raconter comme elle nous la raconte aujourd'hui. Mmh. Et donc, je suis toujours passionnée par ce genre d'éveil et d'histoire. Ouais. Mmh. Et donc, voilà, c'est pour ça que je n'en revenais pas de la manière dont elle racontait ça, si simplement.
Alors Mona, vous avez commencé à ce stade de votre vie. Vous dites, il fallait que je ressente ce que les gens vivent. Et vous avez fait ce que les journalistes appellent, vous avez débuté une sorte de voyage initiatique dans la rue.
Absolument.
Comment ça se passait au jour le jour ?
C'est-à-dire que ça a été progressivement, hein, puisque bon, après quand j'ai quitté la maison, j'avais une petite chambre boulevard Diderot, et c'est comme ça que je suis allée à la gare de Lyon, puisque c'est tout près de la gare de Lyon.
Et à l'époque, il y avait l'île au Chalon à la gare
c'était
de Lyon.
L'île,
donc, c'était un lieu où se retrouvaient les plus désespérés.
Absolument. Mm-hmm. Et puis c'était le lieu de la drogue, les dealers, tout ça. Oui, c'était très très dur. Et puis il existait rien. Il faut savoir que il y a 16 ans, il y avait entre 200 et 300 personnes qui vivaient dans la gare. Vivaient dans la gare et dans les gaines souterraines et tout ça. C'était vraiment un monde particulier.
Alors là, vous faisiez quoi ? Vous alliez à la rencontre ? Vous parliez avec ces personnes ?
Voilà. Donc, j'ai commencé le début de la rue avec les plus célèbres, c'est-à-dire que c'est Pedro Meca, je ne sais pas si
qui a créé la moquette et les Compagnons de la Nuit, qui est un lieu d'accueil de personnes en difficulté aussi.
Voilà. Il y avait Patrick Giraud aussi,
Captif La Libération, qui accompagnait notamment les prostituées.
Absolument. À l'époque, c'était surtout tous les gens qui étaient dans les halles. Il n'y avait pas encore vraiment les prostituées du Bois de Boulogne comme ils font aujourd'hui.
D'accord.
Mais donc, j'ai plongé comme ça au départ. Et puis, c'était vraiment ma place, quoi. Je sentais que c'était...
Vous avez senti ça ?
C'est-à-dire que mon combat, il était pour les femmes. Ça m'était insupportable de voir des femmes dans la rue. Je les faisais venir dans ma petite chambre, ainsi que les hommes aussi, parce que je vivais avec eux, tous. Donc c'est une vie quand même où il faut descendre en soi complètement, parce que c'est ce que je dis souvent, les gens vont à la rencontre des plus cassés, mais ils ne se rendent pas compte qu'on vient avec son formatage ou le formatage de la société. On vient avec je suis, tu devrais.
Ben oui, on a envie d'aider.
Voilà. Alors que, s'ils voulaient, non. Ils vivent dans un autre monde où toutes les données sont différentes. C'est-à-dire que le temps, les odeurs, les distances, tout est complètement différent. Donc, pour aller à la rencontre, il faut vraiment descendre en soi. Très très profond, au-delà du corps, je dirais, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que en plus, moi, à l'époque, les gens étaient pourris de la tête aux pieds, c'était des milliards de poux, chaque poil.
C'est ce que Xavier
Manuli
raconte de façon très très très, très forte dans ses différents livres.
Et puis,
expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que ces femmes en arrivent là ? Elles sont abandonnées, la vie est trop dure, c'est une forme de fatalité, c'est le système social qui ne fait pas son boulot. Comment est-ce que vous avez compris ça au fil de cette expérience que vous avez vécue très profondément ?
Il faut dire que j'ai une expérience vraiment extrêmement large, parce que Cœur de Femme, c'est le microcosme du monde, il y a tous les pays. Mais tout au début, quand j'ai commencé, il y a 16 ans, c'était plus des toxicos, des sortantes de prison, ce qu'on appelle la femme de la rue, la clocharde, entre parenthèses, des jeunes que j'appelle aussi les petites chèvres, c'est-à-dire qu'elles vivent la rue comme une aventure.
Pourquoi vous les appelez les petites chèvres ?
Parce qu'elles vont d'un endroit à l'autre, on ne peut pas les mettre du tout entre des murs. Et quand elles se trouvent enceintes, d'ailleurs elles ne savent même pas de qui, c'est vraiment c'est très curieux, elles sautent de partout et on ne peut pas les mettre en cage.
Vous en parlez avec beaucoup de calme, vous n'avez jamais été submergée au moins au début par l'émotion,
Je crois que...
Le bouleversement ?
Non.
Non.
C'est-à-dire que je pense que j'ai dû être préparée à ça depuis toujours, je crois. Parce que...
C'était votre destin ?
Oui. Ouais. Parce que je vois au niveau émotionnel, bon, même quand je m'occupe des très 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 cassés ou c'est vraiment difficile, bon, je le prends pas pour moi. C'est-à-dire que j'arrive à transformer à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la compassion, c'est vivre l'unité. Donc, l'autre... avec ma propre énergie, j'essaie de transformer. Mmh. Donc je le prends pas et ça me détruit pas.
Alors comment est-ce que vous, au bout d'un certain moment, après avoir vécu intimement cette expérience, comment est-ce que vous avez construit quelque chose avec ces femmes? Comment est-ce que vous avez débuté votre action à proprement dire?
Alors, après la rencontre avec l'abbé Pierre, 3 mois après, j'ai rencontré une carmélite au Carmel de la Paix à Mazille.
Mmh. À côté de Thésée.
De Thésée, mmh. qui elle m'a passé à l'action parce qu'elle m'a dit, voilà...
Elle vous a passé à l'action.
Voilà.
C'est une jolie expression.
Elle m'a dit, voilà, je voudrais inviter des femmes de la rue dans mon Carmel à Noël.
Ah bah oui, bon sang, mais c'est bien sûr, on n'y avait pas pensé. Oui.
Et donc, ce qui fait, si vous voulez, que de l'abbé Pierre qui m'avait ouvert les yeux, là, il a fallu que je réalise une action. Et là, c'était tangible. Il fallait que j'aille, je descende, comprendre ce qui se passait dans la rue.
Alors, elles sont venues, ces femmes ?
Alors, elles sont venues. Donc, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que j'ai amené donc, des femmes de la rue au Carmel avec des scouts musulmans pour la nuit de Noël.
Pour la nuit de Noël.
Voilà. C'était vraiment très, très beau. Et ces femmes, donc, toutes les religieuses, les carmélites, avaient réservé tout le Carmel pour les femmes. Mmh. Et donc, il y avait les cheminées, enfin, ils avaient mis des fleurs. C'était magnifique, parce que des femmes de la rue qui arrivent comme ça dans un lieu magique...
C'était la crèche, un peu comme Joseph et Marie étaient à la rue.
Et voilà.
C'est ça l'histoire.
Donc, voilà. Mmh. Et puis, quand je suis revenue, c'est là où j'ai écrit 4 feuilles qui n'avaient pas de nom, mmh. avec ma réflexion. Surtout qu'à l'époque, il fallait les insérer... Mais elles étaient tellement cassées, comment voulez-vous insérer des gens qui ne tiendront jamais debout ?
Elles étaient désocialisées.
Ah, plus que ça.
Plus que ça, humainement cassées.
Humainement, ah. Oui, c'est vraiment... Mmh. Et donc, il fallait faire un lieu, justement, une maison, pour qu'elles se posent, pour ensuite partir. Ça n'existait pas à l'époque.
Il n'y avait aucun lieu pour se poser.
Il y avait un lieu, mais qui était sordide, parce que c'était exactement comme les prisons. C'était des surveillantes de prison, d'ailleurs. Et elles arrivaient, on leur parlait à peine, on leur donnait une serviette de toilette, un gant, et puis on les levait à 6h, à 8h dans la rue, par tous les temps, et tu vas aller chercher du boulot. J'avais l'impression de vivre, on achève bien les chevaux, là. Vous savez, on court, on court, on court.
C'était pas ce qu'il fallait, quoi.
C'était affreux. Mmh. Et donc, pendant ces 2 ans et demi que j'ai vécu dans la rue et dans la petite chambre, ça m'a permis, si vous voulez, d'ouvrir énormément de portes. Alors, au début, bon, maintenant, je suis revenue à la vie, mais au début, c'est vrai que je reconnais que j'avais un langage peut-être très philosophique et métaphysique. Parce que pour moi, il fallait aller dans les fondements. C'est-à-dire, ce que je voulais faire, c'était l'être humain, le centre. C'est-à-dire que je voulais retourner dans l'histoire, dénouer le nœud pour libérer
la vie
qui était dans ces personnes et surtout s'appuyer sur toutes leurs qualités pour trouver la place dans la société. Mmh. Ce qui n'était pas fait, puisqu'on vous pousse comme ça, il faut y aller.
Et ça marchait ?
Voilà. Ben, petit à petit, alors...
Petit à petit,
bon, j'ai ouvert beaucoup de portes. Et en 93, puisque j'ai passé un été très dur dans la rue en 93, où c'était, il n'y avait rien du tout pour manger, pour se laver, tout, c'était vraiment dur. Et en septembre, il commençait à faire froid, et je me suis dit, il faut absolument qu'on trouve un lieu. Et avec l'abbé Pierre et Kouchner, on a pensé à la SNCF, et c'est le président de la SNCF, qui était Monsieur Fournier à l'époque, qui a démuré la maison, la première maison cœur de femme, rue Fulton.
Pour vous ?
Pour nous. Donc,
vous avez accueilli combien de femmes ?
Oh, elles étaient une quinzaine, mais très très cassées. Hein. C'était vraiment le bas du bas. Hein. C'était très dur. Quand je dis mes zombies, c'était des zombies à l'époque.
Donc, c'était des sous-femmes, on peut dire ça ?
C'était terrible. Elles étaient vraiment très cassées. Et c'était une grande maison, mais c'était une cour des miracles, hein, puisqu'on n'avait rien. Et puis moi, je n'avais pas d'argent non plus. Hein. Je n'avais plus rien. Donc, heureusement, j'avais fait un reportage et bas les masques. Et en fait, on a mangé pendant 2 ans qu'avec la solidarité.
C'est-à-dire des gens qui venaient.
Des gens qui venaient nous apporter à manger. Voilà, on mangeait tout ce qu'il y avait dans la maison, c'était de briques et de broc, mais c'était ça qui était bien justement, parce que moi je reconnais que tout aujourd'hui, cette expérience est partie de rien.
Mmh. Donc quand oui, vous manifestement, partez, c'est clair, on vous écoute.
Quand,
oui.
Voilà, quand mmh. vous êtes partie de rien et chaque jour vous avez posé les pierres, mmh. vous savez que c'est juste. Parce que quand elles n'étaient pas justes, hop, on savait que c'était pas ça.
Les fondations
ça,
sont solides.
Voilà.
Bien, alors on va poursuivre cette odyssée. Pendant ce temps-là, à cette époque-là, à France Gall, vous avez composé des chansons avec Michel Berger.
J'ai jamais composé, mais j'ai interprété.
Voilà. Et notamment une chanson qu'on va écouter maintenant, Les couloirs des Halles. Vous pouvez nous en dire 2 mots avant qu'on écoute cette chanson, parce que je crois qu'elle est en résonance avec l'histoire que vient de nous raconter Mona Chassériau.
Avec les filles de la maison, j'ai cherché dans mes textes et dans ma musique, mm-hmm. puisque c'est quand même la musique qui nous a rapprochés avec certaines d'entre elles, mm-hmm. puisqu'elles se souvenaient de m'avoir entendue à telle époque de leur vie, et que j'avais chanté ça, et qu'elles aimaient bien si maman si, et qu'elles se mettent à chanter mm-hmm. des refrains comme ça, donc j'ai bien vu qu'elles
une
connaissaient bien ma musique. Voilà,
oui. mm-hmm.
et qu'en fait c'est la première chose qui nous a réunis, c'est cette musique. Et il y avait, je leur ai dit que j'avais fait des chansons, chanté des chansons qui pourraient leur parler. Et par exemple, Les couloirs des Halles, c'est une chanson qui a été écrite après avoir vu un reportage à la télévision sur les fugueurs, mmh. les fugueuses très jeunes qui allaient dormir aux Halles et qui se faisaient des copains là-bas, et qui c'est là-bas qu'elles vivaient. Donc ça nous avait beaucoup touché, ça avait beaucoup touché Michel, et il avait écrit cette chanson
voilà.
pour eux.
Pour eux. Bah écoutez, on va écouter donc Les couloirs des Halles dans cette édition de Grand Angle consacrée au cœur de femme de Mona Chassériau.
Dans le ciel de sa chambre, toutes ces images clouées, comme des portes sur des rêves, pour pouvoir s'envoler.
C'est quand même de l'amour. En 1992, Michel Berger et France Gall nous emmenaient dans les couloirs des Halles, au cœur de Paris, là où vivaient de nombreuses femmes, là où vivent toujours de nombreuses femmes en grande exclusion. Ces femmes précisément que Mona Chassério et son association Cœur de Femmes ont décidé de sauver. Elles sont là l'une et l'autre, France Gall et Mona Chassério, dans cette édition de Grand Angle avec l'hebdomadaire Pèlerin.
Grand Angle, RCF, en partenariat avec Bayard Presse.
Alors Mona Chassério, vous êtes avec nous, donc vous êtes la responsable de cette association Cœur de Femmes qui vient en aide aujourd'hui à des centaines de femmes en grande exclusion. Vous êtes au cœur de l'opération Cœur d'Or qui est menée par l'hebdomadaire Pèlerin Magazine. C'est quand même de l'amour. Il y a toujours de l'amour qu'on peut éveiller au fond des femmes, même en grande exclusion, en grande difficulté, en grande solitude.
Je dirais que elles sont encore plus en demande d'amour et puis elles en ont aussi. Elles en ont à donner, puis elles ont. Vivre avec elles, c'est un vrai cadeau avec les gens de la rue, parce que si vous voulez, bon, du fait que leur ego est cassé, parce que elles sont tellement tombées bas que c'est du vrai, quoi. Moi, c'est ce que j'aime avec elles ou avec eux, parce que c'est que on a des vraies relations, des vrais échanges. Ça passe pas par le mental. Donc c'est vraiment, enfin, pour moi, je dis toujours que ça a été mes grands maîtres. Aussi bien les hommes que les femmes, ils m'ont vraiment enseigné beaucoup de choses.
C'est pour de vrai, on n'est pas dans le semblant, dans la superficialité, dans les paillettes. Ouais. On a l'impression, vous voyez, en France Gall et Mona Chassério, que c'est justement cette vérité qui vous rassemble, peut-être parce que vous avez connu l'une ou l'autre des souffrances essentielles. France Gall, il faut le rappeler, vous avez perdu votre mari, Michel Berger, votre fille de 9 ans. Est-ce que c'est ça ?
19 ans.
Pardonnez-moi, de 19 ans. Est-ce que c'est ça qui vous rassemble ? Cette souffrance que vous avez vécue l'une et l'autre.
C'est évident.
Oui.
C'est évident parce que c'est un peu comme si on parlait le même langage. On sait de quoi on parle et on a en face de nous quelqu'un qui a vécu des choses similaires et qui comprend en fait. Et puis qui a une évolution surtout extraordinaire.
Qui est reparti vers la vie.
Complètement. Et Mona a une évolution extraordinaire, je trouve. Non pas que avant c'était raté, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est magnifique, c'est ça la vie en fait.
Est-ce que ce que vous nous dites au fond, est-ce que c'est bien qu'au fond du trou, c'est pas le trou, Mona ? Au fond du trou, il y a toujours une lumière possible, il y a toujours une porte ouverte, une vie nouvelle.
Pas toujours. C'est-à-dire que, si vous voulez, à Cœur de Femme, il y a celles qui vont renaître, parce qu'on sait que c'est possible, hein, parce qu'on va toucher le nœud, et puis elles rebondissent, il y a quelque chose qui se passe, et qui transforme, et qui reviennent à la vie. Et puis, il y a celles qui sont allées beaucoup trop loin dans la destruction, où là, c'est plus possible.
Ça arrive.
C'est-à-dire,
ça.
Oui. Mmh. C'est entre le vouloir et le pouvoir, des fois il y a un monde et on ne peut plus.
Alors vous avez évoqué ce nœud, c'est quoi le nœud qui fait que ces femmes basculent dans une forme de non-vie et puis si vous le touchez, ben après tout la vie peut réapparaître?
Souvent ça vient de l'enfance, pour beaucoup, tous les problèmes ne sont pas les mêmes, mais souvent celles qu'on accompagne ont vécu dans l'enfance des choses extrêmement difficiles, des viols, des incestes, de la souffrance par les parents, ou pas de parents du tout, trimballés à droite à gauche, donc pas de racines. Et c'est là où on voit comme c'est justement très important d'avoir des racines et le rôle des femmes aujourd'hui, parce que nos enfants vont mal, faut aussi que les femmes pensent qu'avant tout elles sont mères aussi. Donc c'est vrai qu'on peut tout faire, puisque pour moi j'ai participé aussi à mai 68, donc on s'est développé. Mais je pense que notre rôle de mère, il faut surtout pas le délaisser. Il faut, je pense que c'est la qualité de la personne. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de choses, mais je pense que c'est vivre l'instant. Ne jamais, quand on est avec son enfant, on est avec son enfant. Quand on est au travail, on est au travail. C'est apprendre ça, à vivre dans une conscience de l'instant.
Et c'est ce que vous faites avec ces femmes en difficulté ?
Oui, je pense que oui. Si j'ai pu faire tout ce que j'ai fait, c'est parce que je pense que je laisse couler ce qui vient en moi. C'est-à-dire, enfin pas couler, mais je vis vraiment l'instant.
Oui.
Je me charge ni de ce que j'ai vécu avant, ni de ce que je vais vivre demain. J'essaie de vivre au plus proche du moment, pour être complètement disponible et à l'écoute de la personne qui est en face de moi.
Alors comment ça se passe ? Vous parlez avec ces femmes ? Vous passez, on peut imaginer, vous passez des heures à parler avec ces femmes, à les faire accoucher de leur propre vie ?
Alors pendant des années, les trois premières années, je savais même pas quel temps il faisait dehors, parce que
vous étiez au fond du trou
J'étais. Donc oui, c'était essayer de comprendre le mécanisme qu'elles avaient mis en place dans la souffrance. Et les femmes, c'est complètement différent des hommes. Elles mettent un mécanisme, un comportement de survie très très différent,
beaucoup plus subtil.
C'est-à-dire que pour avoir quelque chose, par exemple, et ben elles vont vous raconter plusieurs histoires pour avoir ce qu'elles veulent. Mmh. Alors que les hommes, c'est beaucoup moins subtil. Donc c'est pour ça que accompagner des femmes, c'est aussi avoir ressentir les mots-clés. C'est tout un art particulier où il faut avoir tous les sens en éveil. Aussi bien le regard, l'écoute, tout, l'intuition. C'est quand je dis justement c'est les qualités féminines qui sont les propres de l'accompagnement, c'est exactement quand on a une femme à un enfant, elle n'a pas besoin de mots pour savoir s'il a soif, s'il a faim, s'il a froid, elle le sent. Et bien c'est ça, c'est arriver à toutes les personnes qu'on rencontre, sentir la chose qu'elle dégage ou la chose qu'elle vit pour l'aider à justement prendre les clés pour l'aider à se transformer.
Alors,
et se mettre sur
cette semaine, justement, Pèlerin consacre plusieurs pages à Cœur de Femme et Pèlerin nous raconte l'histoire d'Angélique, 28 ans, Akima, 37 ans, Karine, 21 ans. Vous les connaissez, toutes ces femmes et toutes celles qui leur ressemblent?
Oui.
Racontez-nous une histoire qui vous paraît significative, qui vous paraît bien représenter ces femmes que vous aidez à revenir à la vie.
Oh, il y en aurait des milliers, parce que c'est vrai que, heureusement, aujourd'hui, il y en a plein qui sont debout, qui sont devenues des mères, d'abord des femmes, des mères, parce que là aussi, on fait le travail de restauration avec les juges et l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est un vrai travail de renaissance. Si vous voulez, bon, je me souviens d'une, par exemple, qu'on cite souvent parce que c'était tellement extraordinaire. Elle est arrivée à la halte femme, qui est vraiment le premier endroit, puisque j'ai toutes les marches.
Vous avez plusieurs maisons, on expliquera ça tout à l'heure. Voilà.
Et donc, elle est arrivée à la halte femme, mais coupée du monde, totalement dans une bulle, la tête sur la table, toute la journée. On n'arrivait même pas, elle communiquait plus. Et puis, petit à petit, bon, on a fait ce travail. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, allez, on la passe à la maison, parce que pour c'est vraiment le degré du dessus où on est plus dans le travail individuel. Et puis finalement ça a marché, et là elle est revenue à la vie, bon, avec justement les psychiatres du 13e ont fait un très bon travail, justement où on les traitements sont harmonisés aussi avec le travail qu'on fait. Et puis petit à petit elle a récupéré, justement elle a revu ses enfants qu'elle n'avait pas vus depuis une éternité, et tout est revenu dans sa vie. Et maintenant, eh bien, elle est femme comme tout le monde, son métier, ses enfants. Mais quand on voit, oh, ça a pris 4 ans.
Et qu'est-ce qui l'avait fait basculer dans cette forme de non-vie que vous évoquez ?
Je pense que elle avait une histoire un peu lourde de famille, avec des parents qui étaient, eux, ils étaient à la campagne, c'était en plus dans le Berry, donc c'était.
Les auditeurs du Berry qui nous écoutent vont pas aimer, mais bon.
Mais ce que je veux dire, c'est le terrien, quoi.
Oui.
Et donc, elle s'était un petit peu enfermée, elle était dans sa bulle et elle s'était coupée totalement du monde. Et elle était venue à Paris, et c'est comme ça qu'elle était dans la rue.
Et maintenant, elle vit dans le monde. France Gall, on vous voit dans ce numéro de l'hebdomadaire Pèlerin, on vous voit au milieu d'une bonne dizaine de ces femmes. Là, on sent que manifestement, il y a quelque chose qui passe entre vous et elles. Comment se sont passés les premiers contacts? Comment vous avez découvert ce monde-là?
Avec Mona, d'abord. Évidemment, c'est elle qui a tenu à m'emmener à la halle des femmes, d'abord, à la maison, ensuite. Moi, j'ai un rapport très simple avec les gens en général, et les femmes d'autant plus. Donc, à partir du moment où on a une simplicité, où on est vrai, je dirais, les choses se passe bien.
Vous n'avez pas eu peur? Allez, posons la question. Non, vous n'avez pas été inquiété par ces femmes qui étaient en difficulté? Non, ça vous a pas... Non.
Non, pas du tout. Mm-hmm. Pas du tout. Parce que d'abord, à la maison, on n'a pas l'impression que ce sont des femmes qui sont cassées. Parce que elles se font belles quand même. D'ailleurs, vous voyez sur la photo qu'on a faite tous ensemble, j'avais amené avec moi un maquilleur et un coiffeur.
C'était une grande fête.
Et donc, on les a maquillées, coiffées, celles qui voulaient, parce qu'elles ne sont pas toutes sur la photo. Il y en a qui voulaient pas se montrer, il y en a qui voulaient pas être maquillées, mais il y en a qui voulaient, qui étaient contentes d'être faites jolies et de, c'est vrai, ça reste des femmes. Et donc ça, c'est des moments. Moi, je leur apporte. D'abord, ça fait, c'est tout nouveau, hein, ça fait pas longtemps que je suis là, mais je dirais peut-être une légèreté quand même. D'abord, elles savent que je suis quelqu'un qui a traversé des choses. Mmh. Elles le savent très très bien.
Vous en parlez avec elles?
Non, on n'en parle pas. C'est pas la peine. Elles le savent. Et moi, je sais qu'elles ont traversé des choses très difficiles. Alors, je commence à en connaître quelques-unes. Angélique, justement, celle dont on voit la
Angélique
photo.
Angélique, qui a 28 ans.
Oui, qui a 28 ans.
Et qui dit dans Pèlerin, il m'arrive de remercier Dieu.
Oui, mais parce qu'avant, elle avait la foi, puis elle l'a perdue. Mm-hmm. Angélique, par exemple, elle me fait des baisers tout le temps.
Oui.
Elle m'embrasse tout le temps, comme sa maman.
Oui.
Elle me dit.
Ça participe de son...
Et j'adore.
De sa reconstruction.
Je sais pas, mais ça lui fait plaisir, et c'est vrai, c'est des bisous, et il y en a pas tant que ça. Et...
Alors, dans Pèlerin, vous expliquez que vous avez une maison à Dakar, et c'est dans cette maison que vous avez pu vous reconstruire aussi à travers les difficultés que vous avez vécues. Et donc, à Dakar, vous êtes sensible à ces très nombreux enfants de la rue, ces enfants qui vivent dans la rue, dans la capitale du Sénégal.
Avant de suivre Mona, j'avais déjà suivi. Le SAMU social pour les enfants à Dakar, et je dois dire que c'était très très difficile, et là-bas aussi j'essaie de leur apporter du rêve.
Vous leur ouvrez votre maison?
Oui. Et c'est merveilleux, parce que ce sont des enfants, donc ils jouent comme des enfants, donc ils oublient, c'est ça qui est formidable avec les enfants, c'est qu'ils oublient pendant quelques heures.
C'est toujours une leçon d'espérance.
Oui.
Alors on va faire une deuxième pause musicale. France Gall, dites-nous deux mots de cette chanson, donc, qui a été composée par Michel Berger. Et toi, sinon, personne.
Oui, parce que je pense que Mona sera d'accord avec moi. La clé, en fait, elle vient de soi. C'est nous-mêmes qui avons la clé quand quelque chose ne va pas, ne tourne pas rond. Et c'est le sens de cette chanson. Tu pourras tout essayer, mais c'est toi qui as la clé de ça.
Voilà, c'est toi qui as la clé de ta vie, Michel Berger, France Gall, 1992. Toi, sinon personne.
Qui veut te sauver?
Girl, Michel Berger en 1992, Toi, sinon, personne.
Grand Angle, Frédéric Mounier.
Grand Angle aujourd'hui avec l'hebdomadaire Pèlerin et une association pas comme les autres, l'association Cœur de Femmes, qui a été fondée par une femme pas comme les autres, Mona Chassériau, qui est avec nous dans notre studio. Et Cœur de Femmes est aujourd'hui au cœur de l'opération Cœur d'Or menée par l'hebdomadaire Pèlerin et avec une marraine pas comme les autres aussi, qui est aussi avec nous, France Gall. Paula Boyer, vous êtes rédactrice en chef de l'hebdomadaire Pèlerin, vous soutenez donc l'association Cœur de Femmes, vous insistez sur ces maisons qui sont des lieux, je crois aujourd'hui, Mona Chassériau, vous avez une dizaine de maisons qui sont...
Non, je n'ai pas que des maisons, mais j'ai,
une... Des lieux d'accueil.
Des lieux d'accueil, mais il y a une maison en particulier.
Voilà, la maison qu'évoquait tout à l'heure France Gall. Paula Boyer, ça vous a frappé cette maison, vous êtes allée ?
Oui, moi ça m'a beaucoup frappé. D'abord, ce qui m'avait frappé lorsque j'ai interviewé France, c'est qu'elle m'avait expliqué qu'au milieu de toutes les épreuves qu'elle a traversées, elle avait pu se reconstruire dans sa maison. Et lorsque je suis allée...
À Dakar.
Voilà. Mmh. Et lorsque j'ai rencontré Mona et que je suis allée à la maison, cette maison,
c'est le nom de la maison.
C'est la maison. Mm-hmm. C'est une maison qui a des allures de maison de famille. Il y a une salle à manger, il y a un salon avec un canapé où on peut discuter,
lire, écouter de la musique,
se faire des confidences. Au fond, comme chez vous et comme mm-hmm. chez moi. Et puis il y a aussi un petit jardin. Et une maison, c'est un cocon, c'est un endroit où se reconstruire. C'est tout dont ces femmes ont été privées. Je crois que pour les femmes, le fait d'avoir une maison, une enveloppe, un cocon comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant et je trouve absolument génial que cet endroit où les femmes se reconstruisent hein, dans l'association mmh. Cœur de Femmes, et bien ça s'appelle la maison pour les femmes je crois que c'est fondamental de retrouver une maison, un endroit à soi, un autre soi. La maison c'est un autre soi et ça c'est vraiment un mot magique.
Alors la maison, un autre soi, vous avez Mona Chassériau d'autres projets de maison, notamment une maison à Guérande qui sera financée parce que les auditeurs de RCF et les lecteurs de Pèlerin voudront bien proposer, voudront bien vous donner. Je crois que c'est une maison pas comme les autres à Guérande. Expliquez-nous. Guérande, c'est près de la Baule, donc.
Guérande, voilà, c'est près de la Baule. Et c'est une maison qui appartenait à ma famille, qui a été donnée en legs, enfin qui m'a été donnée, puis après je l'ai donnée à l'association parce que je pensais que c'était mieux que ce soit pour l'association, surtout que Guérande c'est tellement un lieu magique pour se refaire une santé. Donc jusqu'ici elle a servi ponctuellement aux femmes l'été où elles venaient pour respirer, mais elles étaient vraiment très très contentes quand elles viennent, elles ont plus envie de partir à Paris. Hein.
Et donc il faut expliquer que Guérande se trouve au milieu des marais salants.
Voilà. Mmh. Et donc il a mûri, il a beaucoup mûri parce que au fur et à mesure des années, quand les lieux se sont créés à Paris, hein, puisque j'ai développé vraiment des lieux qui vont de la rue à l'envol, parce que c'était Théodore Monod qui venait très très souvent à la maison, et donc voilà, et donc il disait toujours aux femmes, c'est marche par marche, ne brûlez jamais les étapes, et c'est ce qu'on a réalisé. On a réalisé justement un travail qui se fait marche par marche.
Vous montez l'escalier avec ces femmes.
Voilà. Et donc Guérande vient terminer un petit peu tout ce travail. Donc ça va être une maison, la maison qui existe va être réhabilitée pour des séjours de rupture, ce qu'on appelle des femmes de Paris, qui viennent justement dans le travail qu'elles font, souffler un peu. D'accord. Pour faire du recul, être avec la vie, quoi. Et puis, dans le jardin, parce que ça fait presque 4000 mètres carrés, donc c'est quand même relativement grand, juste à côté des remparts, parce que Guérande est une ville fortifiée, et donc c'est vraiment bien placé. Donc il va y avoir des petites maisons, comme des maisons de jardiniers. Avec même le toit va avoir de la verdure dessus. Mmh. Donc c'est retrouver les vieilles méthodes, hein, justement le compagnonnage, toute la transmission du savoir-faire. Donc ça va être fait par des compagnons qui vont venir enseigner. On va faire des chantiers-écoles pour qu'ils forment les jeunes.
Mmh. Pour les former aux techniques des marais salants.
Aux techniques de la construction.
D'accord. Okay.
Et autrement, pour les femmes qui seront là, eh bien elles vont faire pousser c'est des légumes oubliés, des plantes médicinales, aromatiques, et on nous donne des marais salants, donc elles vont faire du sel.
Et alors, il y a quand même un miracle dans cette affaire, c'est que si j'ai bien lu vos documents, il faut, combien de temps faut-il pour que le marais accouche en quelque sorte?
Ben, il faut 9 mois.
Il faut 9 mois, c'est ça?
Donc, oui, oui, tout à fait.
Et donc, ces femmes vont se réinscrire dans un cycle de 9 mois?
Dans un cycle de 9 mois, et puis, puis avec la terre, avec le sel, c'est vraiment l'eau, oui.
France Gall, ça vous frappe ce projet qui a l'air manifestement pas comme les autres, c'est un projet d'insertion.
Mais c'est ce projet que je défends.
C'est ça, voilà.
Donc je sais ce que je défends, je le trouve extraordinaire. Ouais. On a presque envie d'y aller nous-mêmes. C'est vrai que se reconstruire avec la nature, elles vont faire les légumes, elles vont faire le sel, c'est magique, hein, comme...
Alors c'est magique, c'est miraculeux, on a envie d'utiliser ces mots-là en écoutant Mona Chassério et l'histoire de la résurrection de ces femmes-là. On va quand même vous poser la question, Mona, on est sur RCF, les radios chrétiennes en France. Est-ce que pour vous c'est une question de foi personnelle, ce qui vous anime dans cette histoire pas comme les autres?
Oui, je pense que je suis portée effectivement par quelque chose de oui, où je sais où je vais aujourd'hui, je sais vers quoi ce qui me porte. Donc oui, avant tout c'est une énergie que je crois que ça passe à travers moi, j'ai l'impression d'être le canal de quelque chose qui se fait à travers moi, mais j'ai beaucoup de mal à voir justement la souffrance du monde aujourd'hui, ça
et
c'est terrible.
Vous vivez dedans.
Oui, mais je le vois, j'agis, mais ça me fait très très mal parce que je pense qu'on pourrait vivre autrement.
C'est-à-dire ?
Avec beaucoup plus d'amour et de relations humaines. Parce que je pense qu'on met pas la priorité à l'homme. Il est pas le centre. Il est plus la société qu'on voudrait voir et toute cette économie qui est mondialisation. Mais on oublie les êtres. Et moi, c'est ça que je défends.
Et vous nous le rappelez.
Voilà.
Alors juste 2 mots sur une catégorie un peu particulière. Les très jeunes femmes que vous récupérez, ces jeunes femmes qui ont 15, 16 ans, qui ont moins de 25 ans.
Alors, j'ai
là, on
pas
est dans
tellement...
le drame total, non ?
Oui, alors, on a 16-25, mais comme on n'a pas de lieu pour les accueillir la nuit, donc elles sont en chambre d'hôtel. Mmh. Bon, souvent, ces petites jeunes qu'on a, leur copain est en prison. Il rentre et il sort de prison perpétuellement. Donc, quand le copain sort, elle se retrouve enceinte. Enfin, c'est un cycle infernal. Et c'est très très difficile de les accompagner parce que elles ont jamais eu d'éducation. Hein. C'est vraiment tout à construire.
C'est l'humanité à construire.
C'est l'humanité à construire. Donc et puis je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes psychotiques où on les voit peut-être plus aujourd'hui, mais il y en a énormément.
France Gall, on arrive bientôt au terme de cette édition de Grand Angle. Un dernier mot aux auditeurs de RCF pour les inciter à soutenir cette magnifique action, pas comme les autres.
Eh bien, vous ne pouvez pas faire autrement, d'abord.
Oui.
Mais si je suis là aussi, c'est parce que je sais que les lecteurs du Pèlerin sont généreux. C'est pas amusant d'avoir à demander de l'argent. C'est vrai, c'est embêtant, ça nous embête, Mona et moi, mais c'est comme ça, c'est ainsi. C'est important de savoir, je sais que le Pèlerin va être généreux et qu'on va pouvoir construire cette maison, j'en suis sûre.
Alors, pour la Boyer, comment on fait pour donner un coup de main à cœur de femme?
Bon, moi d'abord, aux auditeurs de RCF, aux lecteurs de Pèlerin, je dirais qu'on sait qu'on peut compter sur eux. Je suis sûre qu'ils vont répondre à l'appel. J'espère qu'ils seront nombreux à répondre à l'appel et à envoyer leurs dons à l'adresse suivante, opération Cœur d'Or, Pèlerin 2150, 99205, Paris Concours.
Allez, vous répétez.
Je répète, opération Cœur d'Or, Pèlerin 2150, 99205, Paris Concours.
Et merci
à tous et à toutes.
Ouais, et j'ajouterais que donner pour donner, c'est la seule manière de vivre, c'est la seule façon d'aimer.
Ben voilà, ça sera un excellent mot de la fin. Alors juste une précision, naturellement toutes ces indications se retrouvent dans Pèlerin en kiosque. Cette opération durera plusieurs semaines, 4 semaines.
Alors cette opération dure 4 semaines, nous la lançons dans le numéro du 16 novembre et il y a une suite de l'opération dans le numéro du 23, dans le numéro du 30, donc en novembre, et aussi dans le premier numéro du mois de décembre.
Sans oublier 2 sites internet, le site internet de l'hebdomadaire Pèlerin, www.pèlerin.info, www.pèlerin.info, le site internet de l'association Cœur de Femmes, www.coeurdefemme en un seul mot et au singulier, coeurdefemme.com. Et puis il faut citer aussi le livre que vous avez écrit, Mona Chassériau, le livre qui s'intitule forcément Cœur de femme et qui a été publié aux éditions Louis Audibert. Voilà. Et enfin une dernière adresse éventuellement pour les auditeurs qui passent par Paris, 22 rue Paul Belmondo dans le 12e arrondissement. C'est l'occasion de faire connaissance avec Cœur de femme. Je crois qu'on a tout dit. Voilà. Merci à Thomas Jagu qui a été aux manettes. Merci à Christiane Daé qui m'a aidé à préparer cette émission. La semaine prochaine, nous serons à l'occasion des Semaines sociales de France avec leur président Michel Cantu. Michel Cantu, ancien président du Fonds monétaire international. Là aussi, on va parler de ce qui fait ou ce qui défait l'humanité. Michel Cantu qui vient de publier à Bayard Édition un livre intitulé Lettre aux candidats à l'élection présidentielle. Merci à vous encore, France Gall, d'avoir été parmi nous pour cette édition tout à fait particulière de Grand Angle. Merci à vous, Mona Chassériau, pour nous avoir fait partager votre passion. Et merci à Pèlerin. À la semaine prochaine.
Au revoir.